Le journal Adetchupoukoumessol. Un seul titre à la une ce jeudi, l'investiture hier à Kinshasa du premier président congolais élu au suffrage universel. En présence de plusieurs chefs d'État et des gouvernements, Joseph Kabila promet aux Congolais de lutter contre la pauvreté en créant des emplois, la bonne gouvernance et une justice juste et équitable. Dans ce journal, plus d'explications sur son programme ainsi que les différentes réactions des grandes personnalités après cet événement. Mesdames et messieurs, bonjour. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, le premier président élu au suffrage universel en RDC, a prêté serment hier mercredi au Palais de la Nation devant la Cour suprême de justice. La cérémonie s'est déroulée devant quelques chefs d'État africains et plusieurs personnalités étrangères. Suivez cette prestation de serment.
Joseph Kabila Kabange, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et un fidèle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées.
Les propos du chef de l'État ont été recueillis par Jean-Claude Toumba Kamanga et Georges Kamoudjova. Après la prestation de serment, le chef de l'État congolais a annoncé à travers son discours les grandes lignes de son programme, un programme qui accorde une bonne place à la lutte contre la pauvreté ainsi qu'à une justice juste et équitable. Jean-Claude Toumba Kamanga revient sur les grandes lignes de ce discours.
La bonne gouvernance, la démocratie et l'état de droit, c'est sur ces trois piliers que le président élu Joseph Kabila compte s'appuyer pour gérer la RDC durant son mandat. Pour ce faire, il pense s'appuyer sur les femmes et les jeunes. Objectif selon lui, déclencher la renaissance de l'Afrique à travers la RD Congo. Joseph Kabila annonce un vaste chantier. D'abord sur le plan économique, il promet l'assainissement du cadre macroéconomique, la réhabilitation des infrastructures telles que les voies de communication, l'eau et l'énergie, ainsi que des grands projets agricoles. La réforme de l'administration publique aussi a été évoquée afin de créer des emplois. Sur le plan sécuritaire, Joseph Kabila promet la guerre aux fauteurs de troubles et terroristes urbains, le cas de la situation à l'est du pays. La rigueur aussi contre les partisans de l'intolérance et l'immoralité politique. Joseph Kabila.
J'annonce la fin de la récréation sous toutes ses formes et la fin de l'impunité à quelque niveau que ce soit. Les prisons de l'État seront ouvertes à tous ceux qui mettront à travers de la loi.
Et puis toujours dans son chantier, le président élu de la RDC promet une nouvelle justice.
La justice doit lutter contre la puissance d'argent, des tribus, de familles et d'amitié qui paralyse et asservit les magistrats et l'éloigne de son devoir.
À cela s'ajoute la poursuite de la réforme de la police et l'armée, sans oublier la diplomatie. Une diplomatie de développement et non celle d'une simple représentation.
Toujours dans son programme, le président Joseph Kabila a annoncé la nomination dans les prochains jours du Premier ministre et la mise en place définitive du bureau de l'Assemblée nationale, du gouvernement, des assemblées et gouvernements locaux. Un fait à signaler lors de cette cérémonie, l'absence du vice-président Jean-Pierre Bemba. La Belgique a été le pays occidental le mieux représenté à la cérémonie d'investiture de Joseph Kabila avec un premier ministre et trois autres membres du gouvernement. Certains ministres signent ce jeudi avec les parties congolaises des accords de coopération, mais déjà l'ancienne métropole promet d'augmenter son aide annuelle de 40 millions d'euros si la bonne gouvernance est respectée. On écoute son ministre de la coopération et de développement, Armand Dedeker, au micro de Georges Kamoudjova.
On double notre aide parce qu'on croit dans l'avenir du Congo, on croit dans l'avenir des Congolais et dans leur volonté de reconstruction et de stabilisation de ce pays. Comme le dit le président, la fin de la récréation. Maintenant, il faut se mettre au travail et nous allons aider pour contribuer au financement des infrastructures dont il parle, des infrastructures de santé aussi, des infrastructures routières et de chemin de fer. Enfin, dans tous les domaines où ce sera nécessaire, ce sera évidemment une aide conditionnée à la poursuite du processus de démocratisation et de bonne gouvernance. Ce sera conditionné à la bonne gouvernance. Comme le président de la République l'a dit, nous croyons que le Congo ne se développera que à condition qu'il y ait de la bonne gouvernance. Autrement, tout sera des emplâtres sur des jambes de bois.
Pour l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU au dialogue intercongolais qui représentait le Sénégal, l'investiture du nouveau président congolais représente la victoire des Congolais sur l'incompréhension, sur l'inertie et la division. Moustapha Niass estime donc que l'Afrique tout entière doit se mobiliser pour le Congo, mais c'est aux Congolais eux-mêmes d'entamer leur chantier. On l'écoute au micro de Georges Kamoudjova.
Vous savez, c'est d'abord à la RDC d'accomplir les premiers pas pour sa renaissance. Les conditions vont être créées par la communauté internationale et par l'Afrique. Je suis sûr que nous allons tous rester mobilisés aux côtés et auprès du peuple congolais pour que cette victoire se poursuive sous d'autres formes, en commençant par la reconstruction de ce pays. Le président a indiqué l'état des routes, l'état des ports, des aéroports, et je crois que c'est extrêmement important ce qu'il a dit. Et il a renouvelé sa confiance au peuple congolais. Nous avons espoir que le peuple congolais va relever les défis et qu'il va encore gagner de nouvelles victoires.
Et puis ce message de félicitations du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, au président Joseph Kabila. C'est à l'occasion de son investiture en tant que président de la République. L'essentiel de ce message avec Lirine Bouinga.
Pour le secrétaire général des Nations Unies, cette investiture constitue un moment historique pour la République démocratique du Congo. Elle marque la fin officielle du processus de transition. Pour Kofi Annan, le nouveau gouvernement a plusieurs défis à relever, notamment la reconstruction, le redressement économique, la bonne gouvernance, la réforme du secteur de la sécurité et la protection des droits de l'homme. Pour réussir, ce gouvernement devra effectuer une rupture nette avec le passé en vue d'un Congo nouveau, un État dans lequel le peuple aura accès à des services de base et pourra profiter des vastes ressources naturelles du pays. Un État où l'accès à la justice sera le même pour tous. Pour atteindre ces objectifs, Kofi Annan encourage le gouvernement à œuvrer en étroite collaboration avec le peuple, la société civile et l'opposition. Kofi Annan termine son message avec la promesse du soutien de l'ONU à la RDC pour la création d'une nouvelle ère davantage porteuse d'espoir pour tous.
De nos jours, peu sont ceux qui ont vécu les premières élections en République démocratique du Congo. En 1960, par exemple, le président était élu au suffrage indirect, c'est-à-dire par les députés dans l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons un président directement élu par le peuple. Je vous propose de suivre le témoignage d'un des pionniers de l'indépendance. Il s'agit de Cléophas Kamitatou, celui-là même qui avait proposé la date du 30 juin comme jour de l'indépendance. Hier, il n'était pas invité à la cérémonie d'investiture, mais l'événement a un sens aussi pour lui. Il s'exprime au micro de Karine Kakassi.
L'élection du président de la République suffrage universel direct est une nouveauté. En France, le premier président élu au suffrage universel direct, c'est en 1962. Alors on ne doit pas considérer qu'au Congo, il y a eu un très grand retard. Nous aurions dû organiser ces élections en 1964. Malheureusement, il y a eu le coup d'État. Et après le coup d'État, il y a eu les guerres. Donc ce n'était pas possible. Maintenant qu'on a pu le faire, c'est une bonne chose que nous avons faite. S'il y a un mot que je peux ajouter, c'est que le président a pris des engagements encore aujourd'hui en disant que les choses vont changer, la récréation est terminée. Eh bien, je souhaite vraiment que cela soit suivi des faits, c'est que le pouvoir central est en train de s'installer, mais les provinces aussi, dans l'autonomie que la Constitution leur confère, doivent apporter à ce pays un dynamisme nouveau que le chef d'État attend et que tout le peuple congolais attend.
Cap sur Bounia pour voir comment la population a vécu cette cérémonie d'investiture. Plusieurs activités étaient paralysées hier dans cette partie de la province orientale. La plupart des personnes se sont regroupées devant des postes récepteurs de télévision pour suivre en direct la cérémonie officielle de prestation de serment du nouveau chef de l'État. À la fin de cette cérémonie, le président de la société civile de l'Ituri a, dans un entretien exclusif à Radio Capi, rappelé les attentes de la population de l'Ituri vis-à-vis du nouveau chef de l'État. Maître Jean Bosco Lalo est au micro de Jean-Paul Bassila.
À la population de l'Ituri, à la tribune, tout le monde était là. Il avait promis qu'il porterait solution aux problèmes d'eau et d'électricité ici à l'Ituri. Et sans oublier le processus de pacification de l'Ituri, ils nous ont croire qu'il va honorer ses engagements qu'il a déjà pris avec les miliciens qui diraient attendre la loi d'amnistie. Et aussi la route entre de Bounia jusqu'à Beni, des commandes à Xangani et aussi des Nyanya à Isiro sont asphaltées. Nous recommandons vivement au président qui veut de prêter serment, qu'il puisse renouer les relations diplomatiques avec tous les pays limitrophes. Ça va nous épargner de beaucoup de choses. Et qu'on n'attende pas seulement l'état de campagne électorale pour prendre aux besoins de la population, mais qu'il commence déjà dès maintenant.
Autre chose à présent, insuffisance des effectifs militaires au niveau de la frontière avec certains pays voisins, notamment l'Ouganda et le Soudan. L'administrateur du territoire de Faradje, toujours dans la province orientale, tire la sonnette d'alarme. Cette insuffisance est à la base des incursions répétées des troupes étrangères sur le sol congolais, selon lui. Il l'a dit au gouverneur de province le week-end dernier à Isiro, au cours d'une réunion de sécurité. Mais le commandant de la 9e région militaire se veut rassurant. Pour lui, quelques unités en place sont à même d'assurer la sécurité de nos frontières. Les explications avec Jacques Moukankolé.
L'administrateur du territoire de Faradje n'y est pas allé par le dos de la cuillère pour déplorer l'insuffisance de nos forces combattantes le long de la frontière avec des pays voisins, notamment l'Ouganda et le Soudan. Cette situation, selon Jean Kayembe, est à la base des incursions des rebelles du Sud-Soudan et Ougandais dans notre territoire, ce qui provoque, selon lui, des accrochages avec des éléments du bataillon commando en poste dans la région, avec des conséquences que cela implique pour les habitants de cette contrée. Les militaires qui décrochent lors des affrontements et riches de barrières pour tracasser les civils sous prétexte de contrôler les mouvements des personnes, a-t-il souligné. Le gouverneur de province reconnaît que le dispositif sécuritaire actuel n'est pas de nature à garantir l'intangibilité de nos frontières. Il a affirmé pouvoir rappeler au président de la République sa promesse, celle d'envoyer un bataillon brassé. Mais le commandant de la 9e région militaire, tout en reconnaissant cette insuffisance des effectifs, la justifie cependant par l'envoi des unités au brassage. Néanmoins, a-t-il affirmé quelques éléments sont restés sur place pour garantir la sécurité à la frontière. La population ne devrait donc pas s'en inquiéter outre mesure, a-t-il déclaré. Jacques Moukankolé, Kisangani, Radio Okapi.
Désertion d'une dizaine d'infirmiers à l'hôpital général de référence de Manono au Katanga, et ce, depuis le début de ce mois. Ce départ massif des infirmiers résulte du manque de motivation financière après le désengagement de l'ONG GOL depuis le mois de septembre dernier. Pendant 3 ans, cette ONG soutenait financièrement le personnel de cet hôpital, en plus de l'appui aux services de pédiatrie et de la maternité en médicaments. On écoute le médecin chef de zone de santé de Manono, Dr Jean-Marie Abongele, est au micro de Idéfonse Kitenge.
Et les coûts que nous sommes en train de ressentir au niveau de l'hôpital, dit au départ massif des infirmiers. En date du 23 novembre, il y avait une dame qui ne pouvait pas accoucher par la voie basse. Il fallait faire la césarienne. Et j'ai dû opérer cette dame avec des gardes-malades parce qu'il n'y avait pas d'infirmier à l'hôpital, parce que l'hôpital n'est pas appuyé. L'autre coup encore, c'est en date du 30 novembre, il y avait une dame qui voulait partir parce qu'elle souffre de choléra. Moi-même, je me suis transformé en infirmier, placé le sérum, et voilà comment nous avons récupéré cette dame. Voilà un peu les deux exemples que je peux vous donner. Mais néanmoins, il y en a d'autres parce que même le médecin directeur lui-même aussi en éprouve.
Pour pallier plutôt à ces désertions, le comité de gestion de cette zone de santé compte recourir aux infirmiers de poste de santé de Kiambi et de Mutumbi en territoire de Manono. En page internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé mercredi la création par les pays africains d'une force de paix en Somalie. Celle-ci devra soutenir son gouvernement chancelant et promouvoir un dialogue entre lui et les tribunaux islamiques. Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le Conseil a également introduit une exception à l'embargo sur les armes qu'il impose à la Somalie depuis 1992 pour permettre d'armer et d'entraîner cette future force. C'est donc par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.radiookapi.net. Excellente condition d'écoute sur la fréquence de la paix. Okay.